Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.
Salut à tous, c'est Nicolas. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série de podcasts consacrée au Nintendo GameCube. Au programme aujourd'hui, un jeu ultra célèbre et qui le mérite bien, Metroid Prime. Cette nouvelle itération de la série, créée sur NES en 1986 par Gunpei Yokoi, est la première en 3D et elle est sortie en même temps que Metroid Fusion sur Game Boy Advance, c'est-à-dire fin 2002, début 2003 selon les continents. Ce qui signifie près de 8 à 9 ans après la sortie de l'opus précédent, Super Metroid. Alors pourquoi une si longue attente? Eh bien tout d'abord, la mort en 1997 de Gunpei Yokoi a mis un coup d'arrêt symbolique à la saga. Ensuite, la trame principale se concluait assez logiquement par Super Metroid, ce qui soulageait Nintendo de l'obligation de faire une suite pour finir l'histoire et contenter les fans. Enfin, Nintendo a annulé le développement d'un jeu sur Nintendo 64, officiellement parce que les développeurs, je cite, « n'avaient pas d'idées concrètes ». Comprenez, on ne sait pas comment faire pour passer à la 3D sans perdre l'esprit du jeu. Mais en 1998, Nintendo signe avec Jeff Spangerberg, qui avait travaillé sur les Turok sur la Nintendo 64, pour créer Retro Studios, un studio de développement nippo-américain susceptible de mieux répondre aux attentes des joueurs occidentaux. En 1999, la maison mère leur propose 5 projets GameCube, dont la suite des Metroid. Avec son acolyte Mark Pacini, Spangerberg se penche sur la question et avance des idées. Séduit par ses premières ébauches, Miyamoto leur confie officiellement le projet et leur adjoint des collaborateurs de renom, principalement des développeurs des opus précédents, comme Yoshio Sakamoto par exemple. Après 3 longues années consacrées exclusivement au développement de ce jeu, Retro Studios sort donc Metroid Prime. Le premier changement, et non des moindres, c'est que le jeu est intégralement en 3D. Pour accompagner cette évolution, le gameplay a lui aussi évolué. Désormais, on avance en vue FPS, sauf pour les passages en boule morphing, un véritable choc pour les adeptes des épisodes 2D, d'autant plus que cela implique l'apparition d'éléments propres aux FPS console, comme par exemple l'affichage tête haute, le lock des cibles, les différents viseurs, un système de changement d'armes, etc. Cependant, Metroid n'est pas un FPS pur et dur. Il y a d'abord l'aspect plateforme des jeux 2D qui est parfaitement conservé, puisque Samus peut sans problème sauter, s'agripper, utiliser la boule morphing pour se faufiler dans des conduits, et utiliser tous ses mouvements pour résoudre ainsi des énigmes et activer des mécanismes. Par ailleurs, la composante exploration est toujours présente et elle est même prépondérante. Le principe est le même que dans les opus précédents, revenez plus tard quand vous serez plus fort. En effet, vous devez améliorer votre équipement pour pouvoir avancer, par exemple en upgradant vos missiles pour pouvoir ouvrir une porte, ou votre costume de puissance pour pouvoir atteindre une plateforme que vous ne pouviez pas atteindre auparavant. Mis bout à bout, ces éléments donnent un jeu atypique, inclassable, mais très bien équilibré. Une sorte de reboot de la série qui révolutionne certains aspects tout en conservant l'essence et l'ambiance des jeux originaux. On l'a même parfois qualifié de FPM, First Person Metroid, appellation qui concentrerait les notions de FPS, d'aventure, et des spécificités du gameplay Metroid. Chronologiquement, le scénario prend place entre le premier épisode sur NES et Metroid 2 sur Game Boy. Après avoir vaincu les pirates de l'espace sur Zebes, Samus capte un message de détresse d'une de leurs frégates en orbite autour de la planète Talon 4. Une fois sur place, notre héroïne découvre qu'une substance chimique nocive, le phason, entraîne des mutations sur les pirates et que ses ennemis n'ont pas tous disparu. Touchée par une explosion et poursuivant un monstre ressemblant étrangement à Ridley, elle doit se poser en catastrophe sur la planète et commencer son exploration parmi les ruines Chozo afin de récupérer son équipement et de détruire bien sûr la source du phason. Les différents niveaux de talons reliés entre eux par des ascenseurs, un principe issu des jeux précédents, vont donc vous permettre de longues phases d'exploration entrecoupées de combats acharnés. Au cours de ces combats et de ces explorations, vous pourrez vous rendre compte de la réalisation exemplaire du jeu. Certes, le moteur accuse quelques légers défauts, comme de l'aliasing par exemple, mais les environnements sont tellement beaux, tellement grands, tellement détaillés et tellement bien construits qu'on frise la perfection atteignable sur cette génération de consoles. Sans compter qu'une multitude de détails accentue l'immersion, par exemple les gouttes de pluie ou les parasites qui vont apparaître sur votre visière, les différents viseurs et surtout le scanner, qui vous permettra d'activer des mécanismes, mais aussi d'accumuler des quantités d'informations sur les créatures, les objets, les monuments et même l'histoire de la planète. L'ensemble est soutenu par une bande-son un tout petit peu inégale, puisque certains morceaux sont absolument magnifiques, tandis que d'autres sont beaucoup moins marquants. Mais les bruitages, eux, sont parfaitement réussis, et l'ensemble est donc de très bonne qualité. Avant de détailler un peu le gameplay dont j'ai une partie en direct, je terminerai par deux points de détail. Tout d'abord, il vous est aujourd'hui possible de jouer sur Wii à Metroid Prime, ainsi qu'à ses deux suites, Echoes, sorti sur GameCube, et Corruption, sorti lui sur Wii, grâce à un pack Metroid Prime Trilogy qui est vendu aux alentours de 60€. Les deux opus GameCube ont été revus pour être jouables à la Wiimote, ce qui est une excellente chose tant la maniabilité de Metroid Prime 3 Corruption avait impressionné. Vous auriez tort de passer à côté si vous n'avez jamais joué à l'un de ces trois jeux. Ensuite, si vous possédez la version GameCube de Metroid Prime, une Game Boy Advance, le jeu Metroid Fusion et un câble GameCube Game Boy Advance, vous pourrez débloquer deux bonus, un nouveau costume pour Samus dans Metroid Prime, pas très utile mais marrant, et le tout premier Metroid, la version NES qui sera jouable sur votre Game Boy Advance, et ça c'est nettement plus intéressant. Me voici donc manette en main devant Metroid Prime, alors je n'ai pas fait la même erreur que pour le précédent podcast sur Star Wars, c'est-à-dire que j'ai avancé dans le jeu et j'ai soigneusement choisi l'endroit que j'allais vous montrer pour éviter d'avoir des passages un peu inintéressants. Donc là, la partie que je vais jouer va me permettre de parler un peu de l'aspect plateforme, de l'aspect FPS et de l'aspect exploration. Alors tout d'abord, comme j'ai avancé un petit peu dans le jeu, je suis un peu moins tout nu qu'au début puisque j'ai le lance-missile et la boule morphing. Il faut dire que pour le début du jeu où on va récupérer d'abord le lance-missile puis la boule morphing, comme on sent que c'est le début et non pas facile mais un peu moins difficile que ce qui nous attend ensuite, donc j'ai préféré le passer. Puis en plus ça me permet d'avoir des éléments de gameplay un peu plus fournis parce que sans la boule morphing en fait on avance assez peu. Alors, là où j'essaie d'aller, c'est un endroit qui m'est indiqué par un indice sur la carte. En fait, quand vous tournez un peu en rond dans le jeu, au bout d'un moment, le jeu va vous donner un indice en vous disant « Tiens, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose par là-bas, ce serait une bonne idée d'y aller. » Donc après, il ne vous reste plus qu'à vérifier votre carte si vous avez réussi à télécharger la carte de la zone. Ou alors tout simplement à essayer d'avancer un peu à l'aveuglette en direction de l'indice qui s'affiche, et vous finirez par normalement avancer dans le jeu, soit en récupérant un item, soit en abattant un boss. Donc là c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que le jeu me dit il y a une concentration de guêpes mutantes qui a été repérée dans un endroit des ruines Chozo, ce serait une bonne idée d'y aller. Donc je suis en train d'y aller, et pour ça que j'avance et je rentre dans une salle où le sol est recouvert de phazons et je viens de tomber dedans, ce qui m'a pas mal entamé ma vie. Ce qui me permet déjà de parler de l'aspect plateforme du jeu, puisque je dois sauter de plateforme en plateforme. Mais avant ça, je vais quand même détailler l'écran, puisque comme on est dans une vue FPS, on a un affichage tête haute au travers de la visière de l'armure de Samus Aran, avec en haut au centre une barre de vie, en haut à droite une mini carte en 3D qui nous permet d'un peu visualiser où on se trouve, en haut à gauche un radar qui va nous indiquer les ennemis présents, une flopée d'informations sur nos munitions, le degré de dangerosité de l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de phasons ou pas, et très important, en bas à gauche une croix directionnelle est schématisée, ce qui correspond aux différents viseurs. Alors pour l'instant j'en ai que deux, le viseur de combat qui est sélectionné par défaut, et le scanner qui me permet, comme je le disais précédemment, d'analyser des objets, des monuments, des mécanismes, des ennemis, et ça va permettre soit d'activer donc des mécanismes, soit de retirer des informations pour faire avancer un peu le scénario, par exemple en trouvant des rapports des pirates de l'espace qui vont nous dire bah voilà, à tel endroit il s'est passé telle chose, et puis aussi des rapports, enfin des écrits des Chozo qui sont donc la race éteinte qui était présente sur la planète auparavant. Et puis je termine juste en disant qu'en bas à droite de l'écran, il y a là encore une croix directionnelle qui est schématisée, mais qui elle correspond au stick C. Et en fait, pour l'instant ça ne me sert à rien parce que je n'ai que le rayon plasma, mais lorsque j'aurai récupéré le rayon de glace ou le rayon à ondes par exemple, ça me permettra de switcher entre les différents rayons. Et c'est extrêmement bien pensé, très efficace, très intuitif. Vraiment c'est un élément de la maniabilité très important et très bien réussi. Alors là, je viens de rentrer dans une salle, et comme je disais, il y avait du phason, et je suis en train de lamentablement mourir. Là, j'ai réussi à me remettre sur une plateforme, donc je disais, oui, composante plateforme, parce que du coup, il faut que je saute de plateforme en plateforme pour éviter le phason, qui est présent un petit peu partout, et qui me bouffe très rapidement ma vie. Et l'intérêt, en fait, c'est de repérer dans la salle des signes que je dois scanner, donc avec le viseur scanner, et ça va les activer. Et une fois que j'aurai trouvé les 4 signes qui sont présents dans la salle, en même temps je tire sur des ennemis, je vais pouvoir débloquer une porte, et derrière cette porte j'aperçois un artefact, enfin un élément d'équipement à récupérer. Alors j'ai déjà trouvé 3 signes que j'ai activés. Je suis en train de chercher le dernier. Où est-ce qu'il peut bien être? Donc ça fait vraiment partie... Ah, j'ai oublié. Une plante. Les ennemis dans la salle, en fait, ce sont des plantes qui sortent du mur et qui ont la mauvaise idée de vous pousser, en fait, hors de la plateforme, ce qui non seulement vous inflige des dégâts, mais en plus vous fait tomber dans le phason. Donc je viens de me faire un petit peu laminer la gueule. Ah, voilà, je viens de trouver le dernier symbole. Donc je le scanne avec mon scanner, il me dit que ça me l'active. Petite cinématique, la porte s'ouvre. Donc je vais réutiliser les plateformes pour avancer jusqu'à la porte. Ça se fait de manière très intuitive, hein, l'avance de plateforme en plateforme. On saute avec le bouton B. Alors pour l'instant, je n'ai qu'un seul saut. Plus tard dans le jeu, je pourrais avoir un double saut. Et très sincèrement, on retrouve les sensations des jeux des Metroid en 2D, mais dans un aspect 3D. Donc c'est vraiment vraiment très très sympa. Alors voilà, la porte qui s'ouvre et je vais pouvoir avancer et récupérer. Voilà, et je récupère le rayon de charge. Le rayon de charge. Qui en fait va me permettre de charger mon rayon à plasma en une seule grosse boule d'énergie, c'est un peu comme un Kamehameha. Et en fait, donc non seulement ça va me permettre d'infliger de plus gros dégâts, et en plus ça a la capacité d'attirer les loots des ennemis, c'est-à-dire que certains ennemis, quand on les tue, vont lâcher des sphères de vie ou alors des recharges de missiles, ce qui va vous permettre de récupérer de l'énergie ou de recharger votre lance-missile. Et donc parfois vous tuez des ennemis qui sont en l'air ou dans des endroits pas atteignables, ils libèrent quand même une capsule d'énergie ou des lance-missiles, et pour les récupérer, eh bien vous devez utiliser la charge de votre rayon à plasma pour attirer les éléments. Donc écoutez, c'est pas trop mal d'avoir réussi à récupérer visiblement c'était pas là où je devais aller parce que il n'y avait pas de guêpe tueuse, donc je vais devoir continuer, mais je pense que je vais m'arrêter là pour cette séance de gameplay, juste terminer en fait par repérer un point là encore fondamental du jeu, c'est que là j'ai donc avancé, j'ai récupéré un item et il faudrait que je sauvegarde, non seulement donc pour sauvegarder ma progression, mais en plus pour récupérer de la vie. Or, il se trouve que les points de sauvegarde sont relativement éloignés les uns des autres dans Metroid Prime. Ce qui veut dire qu'il n'est pas rare d'avoir un peu... Il est presque pareil de Survival Horror, c'est-à-dire que très souvent, vous aurez à vous traîner à moitié mort jusqu'à un point de sauvegarde, comme vous vous traîneriez dans Resident Evil jusqu'à la prochaine machine à écrire. C'est un peu vraiment ce principe-là, ces sensations-là. Hop là, je vais revenir au point de départ où il est où. Il me reste 35 points de vie, voilà. Pour vous dire si c'est... Bon, j'ai un petit peu merdé parce que c'est pas facile de parler en même temps qu'on joue, mais ça arrive régulièrement qu'on se retrouve dans ces situations-là avec très peu de vie. Mais il faut quand même qu'on se traîne jusqu'à un point de sauvegarde. Donc voilà, je sauvegarde, mon énergie est restaurée, je récupère tous mes missiles et ma progression est sauvegardée. Donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus, c'est une bonne fin. n'y a pas eu trop de fails dans ce gameplay. Donc j'ai été très ravi de faire ce deuxième podcast. J'espère que vous prendrez plaisir à l'écouter. Je remercie Gus et Game Radio du coup de donner la parole aux joueurs. Et pour la suite, nous on se retrouve donc la prochaine fois pour la suite des podcasts Culture Cube. Avec 3 podcasts de suite, alors je sais pas s'ils seront publiés à la suite, mais en tous les cas je vais tourner les 3 d'un coup, sur une thématique Survival Horror. Je vais pas vous révéler les titres maintenant, mais ce sera 3 jeux, 3 Survival Horror, plus ou moins emblématiques du GameCube. Voilà, merci à vous d'avoir écouté ce deuxième podcast, et on se retrouve très bientôt. Salut à tous.
Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.